ça serait quand même important de venir avec sa Bible, par exemple. Hein? Alors maintenant, il y a des grosses Bibles, il y en a sur roulette, il y en a dans les cartables, vous pouvez avoir toutes sortes de Bibles, mais venez avec vos Bibles le matin. Je me suis régalé en préparant ce moment, hier après-midi. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se régaler, je ne sais pas. Parfois, on se régale en préparant un message, on le donne, ça fait flop. Et puis parfois, tu es vraiment à la bourre pour préparer, tu donnes, et puis c'est super et tout. Alors vraiment, on surfe. Hein. Mais bon, voilà. Alors j'aimerais vous rappeler le thème de l'année. C'était dans Deutéronome 11, versets 10 à 27. Dieu qui dit en particulier, si vous obéissez fidèlement au commandement que je vous donne aujourd'hui de la part de Dieu, si vous aimez, servez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de tout votre être, le Seigneur fera tomber la pluie sur vos terres au bon moment, en automne, au printemps. Et plus loin, la parole de Dieu, si aimez le Seigneur votre Dieu, faites ce qu'il veut, restez fidèlement attachés à lui, si vous faites cela, il chassera devant vous les autres peuples, plus nombreux, plus puissants que vous, vous prendrez leurs terres. Et le verset 27, aujourd'hui je vous donne le commandement du Seigneur votre Dieu, si vous obéissez à ses commandements, la bénédiction sera sur vous. L'idée, c'est une idée d'un peu, c'est comme si Dieu centrait un peu plus sur ses commandements. Ça n'exclut pas les fondements de la grâce et tout ça, mais Dieu nous dit, voilà, j'ai des lois, j'ai des commandements, c'est pas de l'Ancien Testament, c'est pas périmé, c'est de l'Ancien Testament, mais ça a à voir avec le Nouveau. Et si vous obéissez à ces lois, eh bien, la bénédiction sera sur vous. Alors, j'aimerais mettre ça, nous avons vécu, un peu comme le peuple d'Israël, qui jeudi dernier finissait la grande fête de Yom Kippour, la fête du grand pardon. Manuela en donne à donner quelques mots. On a eu un temps ici qui était tout simple, mais qui était, à mon sens, très important et très fort, en tant qu'Église, se repentir, venir à Dieu et tout ça. Donc ça, c'est vraiment important. Et dans l'Ancienne Alliance, il faut savoir que la vie religieuse, comme le disait Manuela, d'Israël était ponctuée par beaucoup de fêtes. Vraiment beaucoup de fêtes. C'est un Dieu de fêtes. Et des fêtes en l'honneur de l'Éternel. Dieu lui-même, on l'a rappelé, les a instituées dans la loi comme ordonnance perpétuelle, comme faisant partie de l'alliance avec son peuple. Alors ces fêtes, elles étaient très importantes dans le culte qu'on donnait à Dieu. Elles étaient appelées, il y avait un autre nom, elles étaient appelées les saintes convocations. Alors tous les hommes du pays devaient y prendre part et montrer par là en fait leur fidélité à Dieu. Alors, le rythme, il y avait un rythme comme ça dans l'année. L'année était rythmée par des fêtes, et en fait, le temps est rythmé par un rythme que Dieu a donné. Par exemple, on prend la semaine, c'était une impulsion divine, avec le temps du sabbat qui ponctue la semaine, dernier jour de la semaine, et qui nous parle de nous reposer avec Jésus en demeurant unis. On peut pratiquement, parfois, bien faire un sabbat un jour, mais en fait, dans la tête, on n'est jamais reposé. C'est pas le vrai sabbat non plus. Dieu voudrait à la fois qu'on se repose physiquement et à la fois qu'on se repose spirituellement sur l'œuvre qu'il a faite lui. Donc le sabbat, on en a déjà parlé ici, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Ça c'est le cœur du sabbat. Ensuite, selon la loi, les Israélites devaient se rendre 3 fois à Jérusalem. Vous avez bien sûr Pâques, Pentecôte et les tabernacles, c'est-à-dire la fête qui va être fêtée à partir de mardi prochain. Alors, je l'ai dit, quand ils arrivaient à Jérusalem, sur le chemin, ils récitaient, ils proclamaient, ils chantaient avec beaucoup de force les psaumes 120 à 134. C'est ce qu'on appelle les psaumes des degrés. Et alors, dedans, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans ces psaumes. Vous avez par exemple la proclamation de la protection de Dieu. Et ça, on va le trouver dans le psaume 121, 124, 125. Vous avez le thème de « Prier pour la paix de Jérusalem ». Donc là, on est dedans, là. Hein. Pour ça, on terminera tout à l'heure le culte par les offrandes, mais aussi, on va terminer par le chant qui prie pour la paix de Jérusalem. Israël prie en même temps pour ça avec nous. Et pour la délivrance des oppresseurs, pour la restauration d'Israël, psaume 122, psaume 123, psaume 126. Il y a aussi la prière qui est le rappel de la bénédiction de Dieu sur le foyer du juste, la postérité de David, l'unité des frères, ce qu'on a lu tout à l'heure, psaume 128, 132, 133. La proclamation du jugement des ennemis de Dieu, invitation à la louange, 129, 134. Alors voyez, tous ces thèmes nous montrent que, en fait, quand Israël allait à ces fêtes, il y avait une richesse au niveau de l'intercession qui accompagnait la fête, une richesse au niveau de l'adoration, de la prière, de la marche sur le pays, qui devait créer une atmosphère tout à fait particulière dans le pays, et une atmosphère saturée de prières, d'intercession, de louanges qui se déplaçaient comme ça, se focalisant sur Jérusalem. Alors ces grandes fêtes, ce n'étaient pas seulement des temps d'adoration et de sacrifice, mais c'était des temps de réjouissance et de relation. Alors, cette communion profonde, l'Église est appelée à la vivre aussi. Et c'est le terme grec « koinonia », c'est vivre la présence, l'unité de cœur, l'unité d'engagement ensemble. Alors maintenant, on va voir, on va travailler un peu, et on remarque dans les termes hébraïques que le mot « fête », on n'a qu'un mot « fête » en français, c'est « fête », mais en hébreu, il y en a plusieurs. Et il y en a en particulier quatre qui sont traduits malheureusement par un seul mot, le mot « fête ». Et dans les quatre mots qu'on va voir, on va voir vraiment le cœur de Dieu derrière la fête, le cœur de Dieu derrière ces mots-là. Alors, le premier mot, c'est le mot « moed ». Alors, on peut l'écrire « m-o-e-d », hein. Mais ce mot « moed », c'est la première fois qu'il apparaît dans la Bible, déjà dans Genèse. Il est traduit par « fête », ou il est traduit aussi par « rendez-vous ». Moed, c'est un rendez-vous. La fête, c'est un rendez-vous. Et alors, ce qui est extraordinaire, vous avez dans Genèse, le livre de la Genèse, on peut le prendre ensemble, dans Genèse chapitre 1, verset 14. Alors, je l'ai noté ici, chapitre 1, verset 14. Donc, Dieu crée le monde, hein, il crée les eaux, la terre, les animaux, les végétaux. Verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques. Le terme époque ici, c'est moed. Ça veut dire rendez-vous. Il est traduit par exemple dans Lévitique, chapitre 23, par fête. Donc, Dieu a mis les étoiles pour nous repérer dans le temps, afin de créer des lieux de rendez-vous. Parce que notre Dieu est un Dieu de rendez-vous. C'est un Dieu de relation. C'est un Dieu qui veut nous rencontrer. Et pour cela, il a créé les astres afin qu'on se repère dans les rendez-vous divins. Donc c'est moed ça. C'est moed. Par exemple, dans Lévitique 23, versets 1 et 2, lorsqu'il est dit « L'Éternel parle à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Lévitique 23, 1, 2. Ça, c'est Moed. C'est le même mot que dans la Genèse pour parler des époques. Alors Dieu, il a disposé les astres, le soleil, la lune, les étoiles, afin d'établir un calendrier. Un calendrier afin que les hommes que nous sommes, on puisse discerner les époques spéciales et les rendez-vous spéciaux de Dieu. Alors, pour faciliter ces rencontres, Dieu met des signes dans le ciel pour fixer les époques, les jours, les années, afin qu'il y ait des rendez-vous avec Dieu pour organiser la vie sociale autour des relations. Le fait que Dieu est un Dieu de fête, ça se voit même dans le Nouveau Testament. Parce que, c'est pas le lieu maintenant, mais Jésus a participé à toutes les fêtes. Il n'a pas dit, c'est moi qui arrive maintenant, on efface tout, moi je vais vous dire quelle est la vérité. Jésus est la vérité, et en tant que fils de Dieu, il a vécu toutes les fêtes, mais en leur donnant leur signification. Et en fait, toutes les fêtes parlent de Jésus. Et Jésus, la première chose qu'il a faite quand il a démarré son ministère, il a fait la fête, c'est les noces de Cana. Il a commencé par la fête. Et les noces de Cana qui nous parlent d'un mariage, le mariage c'est un des premiers rendez-vous que Dieu a prévu entre l'homme et son épouse, et Dieu qui est là comme témoin, c'est un grand premier rendez-vous qui est là. Alors le mot moed, c'est vraiment important. Le soleil, ça nous parle de qui? Ça nous parle de Jésus, le soleil. C'est lui la source de la lumière. La lune, c'est quoi? C'est l'Église. La lune, elle n'a pas de lumière en elle-même, mais elle reflète la lumière du soleil. Et c'est ce que l'Église est appelée à être. Elle n'a pas de lumière en elle-même, mais elle est appelée à se tourner vers le soleil pour refléter la lumière du soleil. Donc l'Église a pour mission d'éclairer le monde, d'être le point de rendez-vous, le moed de Dieu. L'Église est appelée à être le moed de Dieu pour que les non-chrétiens, ils entendent le message, ils rencontrent le Sauveur. D'ailleurs, le terme dans le tabernacle, au temps de Moïse, on appelait la tente de la rencontre. C'était la tente de la rencontre. Donc, les époques, les fêtes que Dieu a mises dans le monde, c'est des fêtes qu'il a instituées lui pour le rencontrer, lui. Et bien sûr, pour reconnaître, au travers des fêtes, une autre façon de connaître Jésus. Alors, pour être ce moed de Dieu parmi les hommes, eh bien, il faut que l'Église soit un lieu de fête, un endroit où on découvre la joie véritable, les relations véritables, et le message, où l'on entend le message d'espoir, comme ce chant qu'on a entendu tout à l'heure, où l'on goûte la présence de Dieu. Voilà, ça c'est la tente de la rencontre. Alors ça c'est le premier terme moed, lieu de rencontre, rendez-vous, rendez-vous. Le deuxième terme, c'est, il se voit beaucoup plus souvent dans les Écritures, c'est le terme chag. C-H-A-G. Alors, chag, c'est la notion de fête, mais la fête avec cette coloration que la fête, c'est un sacrifice aussi. Voyez, la notion de sacrifice solennel. En fait, en Israël, il n'y a pas de fête sans sacrifice. Alors, c'était des sacrifices, on amenait des animaux, on amenait les récoltes, on amenait quelque chose. Et en fait, c'était très important parce que Deutéronome 16,16, il nous est dit, tu ne paraîtras point avide devant ma face. Dieu nous dit, et c'est pareil aujourd'hui, tu ne paraîtras point avide devant ma face. Et donc quand ils arrivaient pour les fêtes, ils arrivaient les mains pleines, avec un agneau, avec un animal à sacrifier, ou alors avec les prémices de la récolte. On arrivait les mains pleines. Alors, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver avec... Il n'y a pas de fête de Dieu sans sacrifice. Et c'est quoi le sacrifice aujourd'hui que Dieu nous demande? C'est lequel, d'après vous? Sacrifice de louange, voilà. C'est le sacrifice de louange. Louange pour l'agneau, qui est le sacrifice par excellence que Dieu a donné aux hommes. Et ça, c'est Yom Kippour. Yom Kippour. En fait, les fêtes nous rappellent ceci, c'est que Dieu est tellement saint qu'on ne peut pas s'approcher de lui sans qu'il y ait le sang d'une victime. Et au temps d'Israël, c'était le sang des boucs, le sang des taureaux, et maintenant, il n'y a plus besoin de ce sang-là parce qu'il y a le sang de Jésus. Mais rappelons-nous, on ne peut pas faire la fête. Si on fait la fête, c'est à cause d'un sacrifice, et c'est le sacrifice de Jésus. Et dans Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 14, nous avons le cœur du centre de Yom Kippour, qui est dans ces versets. Christ est venu comme souverain sacrificateur. Yom Kippour, une fois par an, le grand sacrificateur asperge le sang et il rentre dans le lieu très saint, au risque de sa vie. Et il prie pour le peuple. Et le peuple est au bénéfice de ce sang. Et là, Jésus, comme grand sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle, plus grand, plus parfait. Hébreux 9, 11, 14. Il est entré une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Jésus, c'est notre Yom Kippour. C'est lui qui a pris ce rôle de sacrificateur, il est allé jusqu'au bout. Non seulement il a pris le rôle de sacrificateur, mais il a pris le rôle du sacrifice lui-même. Il a pris les deux, pour nous, par amour pour nous. Et c'est pour ça, dans les évangiles, il dit « Christ, notre Pâque, Christ immolé ». Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu pour nous, c'est Jésus. Le don de Dieu, l'agneau pour la fête, l'agneau qui manque pour la fête, c'est Jésus. Jésus, c'est l'agneau de la fête. Hein, comme le fils prodigue, quand il revient, on va tuer un agneau, on fait la fête autour de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Et donc, il est dit, Romains 12:1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Voilà le sacrifice à offrir aussi. On a un sacrifice de louange, ça c'est le premier sacrifice qu'on a donné à Dieu, et on a aussi le sacrifice qui est offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Donc ça c'est la nouvelle alliance, ça c'est des sacrifices qu'on est appelé à donner, notre vie en fait. Et Dieu, il veut notre vie, il ne veut pas quelque chose qui ne nous coûte pas, il veut notre vie entière. Et ça c'est le sacrifice de la nouvelle alliance. Alors dans l'ancienne alliance, quelque part, on offrait un sacrifice, ce n'était pas nous-mêmes, voyez. Et Dieu dit, maintenant, la nouvelle alliance, il y a plus d'exigences. Il nous veut entier, parce que lui s'est donné entièrement. Alors, il nous veut entièrement pour lui. 2 Corinthiens 5, versets 14-15, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Voyez, c'est très clair. Jésus est mort afin que on ne vive plus pour soi-même. Et en fait, quand on commence à ne plus vivre pour soi-même, eh bien, il y a une libération qui se fait. Vraiment une libération. On rentre dans une marche, dans les verts pâturages, etc. Et donc, la vie chrétienne, c'est se détourner de soi-même pour se tourner vers le Christ. Les fêtes en Israël, c'était ça. Le rôle des fêtes, c'était se détourner de soi-même pour se tourner vers Dieu. Et c'est tellement important. Et la lune, en étant vers le soleil, eh bien la face qui est vers le soleil, elle reflète la gloire. Elle reflète la gloire. Donc, Moed, rendez-vous. Shag, ça veut dire la fête dans le sens sacrifice. Il n'y a pas de fête sans sacrifice. Si aujourd'hui on peut se réunir, chanter, louer, danser, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice. Et c'est Jésus. Il y a encore un autre mot, traduit par fête. Et ça, on le trouve spécialement dans la fête des tabernacles, qui est maintenant. Et c'est le mot Chagag. Alors, c'est presque le même mot, mais la différence, c'est que ça veut dire célébration autour d'un sacrifice solennel. Il y a aussi l'idée de réjouissance, de danse, de célébration. Si on prend littéralement ce mot Chagag, ça peut même vouloir dire se déplacer en formant un cercle. Donc c'est vraiment l'idée d'un corps entier qui danse, qui chante pour Dieu. Et donc c'est un peu marcher en procession. C'est toute cette idée d'une danse corporative, ça c'est Chagag. Alors, le mot Chag, c'est l'essence de la fête. Il y a un sacrifice, Jésus, notre Pâque, livré pour nous. À cause de ce sacrifice, on peut accéder à la fête Chagag, c'est-à-dire la fête qui est vraiment la réjouissance. On retrouve ce mot 5 fois dans la Bible seulement. La première fois dans Exode, chapitre 5, verset 1. Alors je vous invite à le prendre. Exode, chapitre 5, verset 1. Alors l'Exode, c'est la sortie d'Égypte. Ils viennent, alors c'est juste avant la sortie, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. » pour qu'il célèbre au désert une fête, Chagag, en mon honneur. Donc, laisse aller, se laisse aller mon peuple, eh bien, s'adresse au diable, aujourd'hui, bien sûr. Et Jésus, lorsqu'il est mort à la croix et ressuscité, il a ordonné à l'ennemi, laisse aller mon peuple. Le laisse aller mon peuple du temps de Pharaon, c'est le laisse aller mon peuple du temps de Jésus, lorsqu'il est mort à la croix. Et cette mort et résurrection, elle crie et elle commande à l'ennemi, lâche le peuple de Dieu. Et c'est parce que Jésus a commandé de lâcher que nous avons une autorité aujourd'hui pour ne pas rester sous le joug de l'ennemi. Tout à l'heure on a chanté, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Mais si on est là et qu'on ne s'approprie pas ce que Jésus a fait pour nous, eh bien on est toujours sous la condamnation. Il n'a pas le droit de nous condamner, mais c'est nous-mêmes qui restons dessous. Et Dieu dit, ne reste pas dessous, parce que j'ai commandé, laisse aller mon peuple. Alors, cette simple déclaration de Moïse, c'est la totalité du plan de la rédemption qui est là. C'est à la croix que Jésus a commandé à l'ennemi de libérer les captifs. Il a dépouillé tous ses droits, il a dépouillé les autorités, les a cloués en spectacle. Voyez. Alors, il y a une joie extraordinaire. Quand vous prenez l'Exode, ils sont sortis d'Égypte, ils ont passé la mer Rouge, et là, il y a le cantique de Myriam à la sortie de l'Égypte. Alors, qui est extraordinaire, ce cantique. Et ce cantique nous parle de Chagag. Et ils ont fait des danses, ils ont sauté et dansé avec les tambourins. C'était vraiment la délivrance. C'était en fait des cantiques, des chants en réponse à la délivrance de Dieu. Donc, Chagag, c'est la fête en réponse à la délivrance de Dieu. Et nous, chrétiens, nous sommes là parce que nous répondons à ce que Jésus a fait pour nous. Donc nos louanges devraient être régulièrement des chagags, c'est-à-dire pas seulement la prise de conscience d'un sacrifice, mais parce qu'on prend conscience que Jésus s'est donné pour nous, alors on est dans une louange extraordinaire de chagag. Alors chagag, quelques jours plus tôt, ils avaient, rappelez-vous au temps d'Israël, ils avaient, dans toutes les familles, ils avaient pris un agneau, ils avaient mis le sang de l'agneau sur les linteaux, il y a un agneau qui était tué dans chaque famille. L'agneau pascal, et ça c'est notre agneau, c'est Jésus aujourd'hui. Alors pour le peuple d'Israël, eh bien le mot chagag, cette dimension des danses rythmées, des processions rythmées, des chants exubérants, c'est tout à fait le temps des tabernacles. C'est le temps de la fête des tabernacles. Le mot chagag apparaît en particulier lorsqu'il est question au chapitre 16 du Deutéronome, lorsqu'il est question, il est décrit cette fête des tabernacles. Alors il est utilisé 5 fois en Deutéronome 16, tout à fait étonnamment, alors que dans le reste de la Bible, on ne le trouve pas beaucoup. Et il est dit dans Deutéronome 16, verset 15, « Tu célébreras la fête, Chagag, pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira de toutes les récoltes, de tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. » Cette expression-là, on la retrouve nulle part dans les autres fêtes. C'est spécifiquement pour la fête des tabernacles. On va en parler un peu tout à l'heure, rapidement. Donc, Moed, rendez-vous de Dieu. Chag, une fête parce qu'il y a un sacrifice. Chagag, parce que à cause du sacrifice, on se réjouit pleinement, on se livre à la réjouissance, et c'est Dieu qui commande. Tu te livreras, j'ai pas envie, Seigneur, j'ai des soucis. Dieu dit, je veux pas savoir. Tu te livreras entièrement à la joie. C'est un commandement de Dieu, hein, c'est fort. Et vous avez un autre terme, c'est le terme michté. Alors là, c'est le terme fête qu'on trouve aussi traduit par le mot festin. Festin. Et en fait, dans nos versions françaises, c'est le mot festin souvent qu'on trouve ici. Mais c'est le repas de la fête. C'est le repas de la fête. Dans toutes les fêtes, il y a un festin. Lisons ensemble une fête des tabernacles que l'on trouve décrite dans Néhémie au chapitre 8, versets 7 à 12. Donc je vous invite à prendre ces versets. Donc Néhémie, versets 7 à 12, nous avons une description, une des rares descriptions de comment se passait une fête des tabernacles, qui s'appelle la fête des cabanes, pour commémorer en fait que le peuple d'Israël a vécu dans des cabanes dans le désert, dans des tentes. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, etc., hein, et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc ça, pendant la fête des tabernacles, la Torah, elle est lue. Elle est lue énormément. Et ça termine. D'ailleurs, la fête des tabernacles, elle termine comment? Ils prennent le rouleau de la Torah, ils les mettent contre eux, et ils dansent et ils chantent de toute leur force. Donc, mais avant cela, pendant 8 jours, on lit la parole de Dieu. On la lit le matin, à midi, le soir, des grandes lectures. Donc c'est ce qui se faisait ici, au temps de Néhémie. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation, dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. » Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est dans la fête des tabernacles qu'il y a cette parole-là. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, ce jour est saint, ne vous affligez pas. et tout le peuple s'en alla pour manger, pour boire. Là, les Français, ils aiment bien ça. Pour envoyer des portions, pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Donc ça, c'est une fête des tabernacles assez particulière. Donc Néhémie, les responsables, ils étaient présents et ils faisaient un festin. Et en fait, la meilleure façon dans ce cas-là d'honorer Dieu, c'était de manger et de boire. Hein? C'était une fête pour l'Éternel, un festin que Dieu lui-même... Lorsque le fils prodigue est revenu à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manger, ils vont boire. Dieu est un Dieu de fête. Les repas, tout se passait avec ses disciples dans les repas, les choses les plus importantes, les enseignements, etc. Donc cette dimension tout à fait pratique, eh bien, qui est bien dans notre culture, on la retrouve très bien dans les fêtes d'Israël. Alors ce mot michté est utilisé à propos d'un festin spirituel aussi, pas seulement festin manger-boire, mais festin spirituel organisé, préparé par l'Éternel lui-même. Alors là, vous avez le passage d'Ésaïe, chapitre 25, versets 6 à 8. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin michté, de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il a néanti le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il a néanti la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Voyez, sur cette montagne, il prépare un festin. Et c'est quoi cette montagne où le voile s'est déchiré? C'est la montagne de Jésus, où Jésus est mort et ressuscité. C'est ça, cette montagne. Alors vous allez me dire, mais il y a encore l'oppression dans le monde. Il y a encore un voile qui couvre les nations. Mais l'Église, c'est cet instrument prophétique. C'est le peuple de Dieu qui annonce quoi? Qui annonce des temps éternels, où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus de larmes, où il n'y a plus de souffrance, où les jougs sont tombés. Et c'est pour ça que Dieu appelle une Église prophétique à vivre le royaume de Dieu, qui n'est pas encore établi complètement, mais elle est appelée à le vivre, à le manifester aujourd'hui sur cette terre, comme signe prophétique qu'un jour, ça sera établi partout dans le monde, lorsque Jésus reviendra. Donc si vous voulez, on est un peu entre deux périodes. Le festin a déjà commencé, il a déjà commencé. Ce festin que Dieu lui-même a préparé sur la montagne sainte, là où Jésus est mort et ressuscité, et Dieu voudrait qu'on en profite de ce festin. Il voudrait que tu en profites. Alors ça serait quand même dommage. La vie, elle va vite quand même, hein. Je ne sais pas vous. Moi, je vois la 47, ça fonce, hein. Je dis, hier, on célébrait à Caleb la 40 ans d'anniversaire. Et 40 ans, ça me semblait hier, quoi, hein. Ça va vite. Mais Dieu ne voudrait pas qu'on passe à côté. Dieu voudrait qu'on prenne part à ce festin. Et ça ne dépend pas des circonstances, ce festin. Il ne dépend pas des circonstances. C'est Jésus qui l'a préparé pour nous. Quelles que soient les difficultés que tu vis, il y a un festin pour toi. Et alors, c'est un festin céleste. David, d'ailleurs, le roi David, il connaissait bien cette histoire. Parce qu'il disait, il connaissait la saveur, ses désirs se portaient constamment. Psaume 63, verset 5, écoutez ce que dit David. « Mon âme sera rassasiée de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Il goûtait, David, à ce festin de Dieu. David, le nouveau David, c'est Jésus. Mais non, la nourriture matérielle, elle rassaisit le corps, elle apporte la force, le plaisir, le réconfort. La nourriture spirituelle, elle apporte le réconfort de l'âme, la force, le plaisir aussi, le réconfort. Donc le festin auquel Dieu nous convie, c'est un endroit de renouvellement. Et c'est le rôle des célébrations, des fêtes. C'était ce rôle de festin, de réjouissance pendant 8 jours, hein, les tabernacles, 8 jours. Donc le Seigneur ne désire pas seulement recevoir l'honneur, l'adoration qui lui sont dus, mais il veut en retour faire du bien à ceux qui le célèbrent, en les rassasiant des bénédictions de sa table. Jérémie 31, verset 14, belle promesse pour nous tous. Je rassasirai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasira de mes biens, dit l'Éternel. Donc il veut nous rassasier. Il veut nous rassasier. Et ça, c'est les célèbres noces de l'agneau. C'est lorsque Jésus, dans les Nouveaux Testaments, il parle des noces de l'agneau. Goûter à ce repas. Donc ça, c'est vraiment, voyez, les quatre termes qu'on a vus, qui parlent de fête, il y en a d'autres aussi, moins importants, qui parlent de sainteté, etc. Mais lieu de rendez-vous, une fête qui est un sacrifice, une fête qui est un lieu de haute réjouissance à cause du sacrifice, et puis une fête qui est le Mishta, qui est un festin, et ce festin qui nous parle aussi des nourritures spirituelles. Alors on termine un peu, on en parlera d'autres fois, mais j'aimerais parler rapidement de cette fête des tabernacles que tout Israël s'apprête à fêter aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a trois grandes fêtes en Israël, où tout le monde va à Jérusalem. C'est la fête de Pâques. Donc là, on a compris ce que ça voulait dire, la fête de Pâques. Le même jour, Jésus, mort, ressuscité, on a compris la signification de la Pâque juive dans la Pâque pour nous. Ensuite, vous avez la Pentecôte. Donc la Pentecôte, là aussi, tout le monde va en Israël. Pour nous, c'est le Saint-Esprit qui est répandu, la moisson qui commence, etc. Mais la fête des tabernacles, quelle est la signification aujourd'hui? Eh bien, la fête des tabernacles, c'est la fête dont la pleine signification ne s'est pas encore accomplie. Voyez, c'est pourquoi c'est si particulier. C'est pour ça d'ailleurs que l'Église a du mal à la fêter, parce qu'elle ne sait pas où se positionner. Ça nous parle de, à la fois, on est dans des tentes, on est sur terre, on est sorti d'Égypte, mais on est encore dans des petites tentes fragiles, nos corps. Voilà. Mais ça nous parle aussi d'une réjouissance extraordinaire, un festin de Dieu où toutes les nations viendront. Deutéronome 16, verset 15. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes les récoltes, dans tout le travail de tes mains. Tu te livreras entièrement à la joie. On retrouve le mot Chagag ici, donc. Mais il est question que toutes les nations viendront. Zacharie, chapitre 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Donc ça, c'est pas encore arrivé, ça. C'est pas encore arrivé. Donc pourquoi est-ce qu'on fête la fête des tabernacles? Parce que nous annonçons, nous issus de plusieurs nations, nous qui sommes pas juifs, forcément, nous qui sommes issus des nations, nous annonçons le rendez-vous divin prophétisé par Zacharie où toutes les nations monteront, adoreront l'agneau. Donc c'est quelque chose de prophétique. Donc c'est drôlement important de marquer cette fête de façon prophétique. Alors, elle correspond à la fin des labeurs, c'est la fin des travaux des champs, c'est la fin de tout ça. Donc on va pouvoir enfin se reposer. C'est aussi, ça annonce le début de la pluie, parce qu'il y a eu la saison plus ou moins sèche. Maintenant, les pluies commencent à revenir. Ça suit tout juste Yom Kippour. On se repentait pendant plusieurs jours. C'était vraiment un peu lourd comme atmosphère. On vient devant Dieu, on demande pardon, etc. Et tout d'un coup, quelques jours après, c'est d'immenses réjouissances. Parce que Dieu a pardonné, justement. Et alors, donc, il y a des textes qui expliquent comment se passe la fête des tabernacles. On ne va pas les voir dans les détails, mais Lévitique 23, Nombre 29, Deutéronome 16, et pendant 8 jours. Je vais m'attarder juste sur un point de cette fête ce matin, et j'espère qu'une d'autres fois, on pourra s'attarder à d'autres points. Cette fête nous rappelle une chose très importante, aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Elle nous rappelle que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Le peuple juif devait construire des cabanes avec les enfants, les grands, toute la famille s'y mettait. On construisait des cabanes et on devait vivre dedans. Alors aujourd'hui, ils font que manger parfois dedans. Vous avez ça sur les balcons, vous avez ça dans les jardins. Mais c'était pour se rappeler que nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Les cabanes de Soukhot rappelaient aux Israélites de ne pas mettre, et ça c'est très, on l'a dit ce matin, de ne pas mettre leur sécurité dans les biens matériels, de ne pas s'attacher aux richesses terrestres, fruits du travail, des efforts humains, mais au contraire, de s'attacher au trésor céleste, la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel, C'est ça. Et dans Habacuc, il est dit, le juste vivra par la foi. Deutéronome 8, 3, Dieu dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne dans le désert, que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, dans cette crise économique, Dieu veut apprendre aux nations que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole de l'Éternel. Et donc tous les dieux sont en train de tomber, les appuis humains sont en train de tomber. Et c'est pas, ça s'appelle le jugement de Dieu. Mais le jugement de Dieu, c'est pas un Dieu qui veut condamner. Le jugement de Dieu, il est là pour, il enlève nos faux appuis pour qu'on se tourne vers lui et qu'on reçoive le vrai pain qui vient du ciel. Donc la fête des tabernacles, en pleine crise économique, c'est un signe. Tu ne vivras pas de pain seulement. Tu n'as pas à t'appuyer sur tes sécurités, sur tes maisons en dur, parce que moi je t'appelle à suivre la Shekinah qui va te conduire parfois dans un désert, mais qui va te conduire aussi dans un pays promis. Et donc ça, c'est très important aujourd'hui. Nous sommes, moi je crois que la fête des tabernacles de cette année est un signe que nous devons proclamer, que nous devons vivre de façon tout à fait particulière, démontrer au monde que la vie véritable ne se trouve pas dans le manger et le boire, mais dans la connaissance de Dieu le Père, qui se révèle même au milieu des tribulations et des manquements, et qui se révèle comme Jéhovah Jireh. Ça, c'est la fête des tabernacles. Alors ensuite, une autre chose dans la fête, un détail, je termine par là. Le huitième jour de la fête, il y avait une cérémonie tout à fait particulière. Le huitième jour de la fête, on appelle ça la fête du puisage de l'eau. C'est-à-dire, on procédait à une libation d'eau. De l'eau était puisée aux sources de Siloé et elle était répandue devant l'Éternel, comme ça, dans le temple. Et c'était à la fois une action de grâce pour dire merci Seigneur pour toute l'eau qu'on a reçue pour les récoltes, mais c'est aussi une prière pour demander la pluie nécessaire pour l'année qui venait. Et donc, on répandait cette eau comme ça dans le temple, et Zacharie 10, verset 1 nous dit « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps ». Donc, dans cette fête des tabernacles, en tant qu'Église, nous sommes appelés à prier pour la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Donc nous sommes appelés vraiment, je vous appelle dans la semaine qui vient, ça commence mardi la fête des tabernacles, intercéder pour la pluie sur le pays, la pluie de Dieu, hein, selon sa parole. Et la joie qui accompagnait ce jour était extraordinaire, au point, dans le Talmud, il est dit, « Celui qui n'a jamais vu la réjouissance, la joie délirante, c'est le terme, la joie délirante du puisage de l'eau, huitième jour de la fête, il n'a pas vu la joie dans sa vie. » Ça, c'est le Talmud. Hein. Celui qui n'a pas vu cette fête avec l'eau, il n'a rien vu. Le même jour, le huitième jour de la fête des tabernacles, Jésus était dans le temple et il a proclamé « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il accomplissait la parole prophétique le jour de la fête des tabernacles, de Ésaïe 13, verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et Ésaïe 55, verset 1, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, sans rien payer. Et donc la fête des tabernacles, Jésus lui-même a dit, c'est moi l'eau que vous voulez puiser. C'est moi la source d'eau vive. Et nous sommes appelés à puiser dans cette eau. Si peut-être tu te sens desséché, si tu te sens assoiffé, si quelque chose est tari, dans cette fête des tabernacles, Jésus dit, je suis la source de la vie. Et viens puiser dans cette source-là. Et quand tu ramènes cette eau, il y a une joie délirante qui t'attend. C'est cette joie de la fête des tabernacles où le Seigneur nous appelle à nous réjouir avec une pleine exubérance. Alors je sais qu'il y a, ça tombe bien, notre tabernacle de louange vendredi soir. Malheureusement, je ne pourrai pas être avec vous. Mais je pense que là, Réfléchissez à ces paroles qui ont été ce matin. Je pense qu'il y a des lignes directrices pour ce tabernacle. Puiser de l'eau, venir aux sources du salut, les processions de louanges et de danse et de joie dans le Seigneur. Yom Kippour, c'était le pardon, et tabernacle, c'est la fête de la joie. Mais c'est aussi Dieu qui nous rappelle, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de la parole qui vient de l'Éternel. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cette fête des tabernacles dans laquelle nous allons rentrer. Et nous voulons comprendre que nous sommes un signe prophétique, Seigneur. Un jour, sur la montagne de Sion, toutes les nations du monde reconnaîtront le roi. Et nous-mêmes déjà, à l'avance, nous reconnaissons le roi. Nous te reconnaissons comme l'agneau de Dieu venu dans le monde pour chacun de nous. Merci, tu es la source de la vie. Et dans cette fête des tabernacles, nous voulons puiser. Nous ne voulons pas laisser le puits à côté. Mais nous voulons puiser dans cette source inépuisable, Seigneur, de grâce et de gloire. Merci Jésus. Fais du bien à chacun et que dans cette église on puisse se réjouir aux sources du salut et être un lieu de moed, de rendez-vous, pas seulement pour l'église mais pour le monde, afin qu'il voit sur cette lune qu'est l'église la brillance du soleil de justice qu'est le Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.